Jésus-Christ, le Seigneur, et mes yeux chaque jour resplendissent d'amour, La force et son courage apaisent les orages de ma vie. Vers l'avenir qui toujours me sourit, Tu portes dans mon cœur Jésus-Christ, le Seigneur, et mes yeux chaque jour resplendissent d'amour. Sa paix et ses promesses me disent avec tendresse, je suis là. Au long de ta route, je retiendrai le doute loin de toi. Mon cœur, Jésus-Christ, le Seigneur, et mes yeux chaque jour resplendissent d'amour.
Tout le monde, quel beau dimanche, quel beau temps, on se dirait en automne. Mais hier c'était l'été, nous avons eu un orage. C'est n'importe quoi. C'est vrai, il y a eu un orage. Je ne revenais pas, j'ai cru un moment que c'était mes haut-parleurs qui débloquaient. Et puis, d'un coup, j'entends en plus de la grêle. Je dis non, c'est pas vrai. Je suis sorti pour voir, mais impossible. Il faisait nuit noire dehors, à part les éclairs. Mais dis donc, c'est impressionnant, hein. Ça fait drôle, c'est bien, c'est super. Mais aujourd'hui, grand beau, comme on dit en Suisse, grand beau. Actes chapitre 2, versets 41-42, s'il vous plaît. Ceux qui reçurent de bon cœur sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Ça, c'est quelque chose qui nous est resté du temps de nos fréquentations avec les frères et sœurs du message de frère Branham, de nous lever lorsque la parole de Dieu est annoncée. Mais vous rappelez, on avait d'autres choses encore qu'on a laissé tomber. C'était la demi-heure de silence. Vous vous rappelez de ça? La demi-heure de silence. On rentrait dans la chapelle et on faisait une demi-heure de silence, c'est-à-dire on parlait pas. C'était difficile pour nous. Hein. Pourtant, on se voit tous les jours, mais quand même encore là. Donc on avait abandonné ça. Mais je trouve que c'est une belle chose que de se mettre debout en signe de respect pour la parole de Dieu. Voilà, j'ai des bonnes nouvelles. J'ai parlé à peu près une heure et demie avec mon ami Marc Croza hier. Et puis, on a pris la décision. Au printemps, nous allons manger une fondue avec le couple Croza et le couple Mathieu Priscille ainsi que nous. Ça va être une bonne journée, je pense. C'est merveilleux, non? Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Et voilà, et je pense que c'est une bonne chose que de vivre des choses simples mais gentilles. Là, on vient de lire qu'il persévérait dans la communion fraternelle. Pourquoi? Pourquoi il persévérait? Parce qu'ils en avaient envie. Ben, c'était des inconscients alors. Non, c'est pas parce qu'ils en avaient envie. Est-ce que c'est parce que c'était sympa? Ben, c'était peut-être sympa, j'en sais rien. Mais je pense pas que c'est pour ça qu'ils vivaient, ils avaient tout vendu pour vivre ensemble. Et persévérer, parce que quand on voit le mot persévérer, ça veut bien dire que des fois il y en avait marre et que bon, on persévère. Est-ce que c'est parce que Pierre les avait convaincus avec son pouvoir séducteur? Non, je pense pas. Non, mes frères et sœurs, c'est simplement parce qu'on a été créés pour vivre ensemble. Vous savez, Là, c'est le temps de Noël, on va offrir des enfants jouets. Il y a beaucoup de jouets qui sont très jolis, mais qui ne fonctionnent que si on met des piles dedans. Qu'est-ce que j'ai dit de rigolo? Hein? On va offrir des enfants aux jouets, j'ai dit. Ah oui, ben ça va de mieux en mieux. Hein. Ah là 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 là, c'est la venoge bientôt. On va offrir des jouets aux enfants. Il y a beaucoup de jouets, je redis la même chose, non? Non. Dans beaucoup de jouets, il y a des piles. Et si on ne met pas les piles, ben ça ne marche pas. Et nous, il y a aussi certaines choses qui doivent être faites, sinon ben ça ne marche pas. Et en fait, on est fait pour vivre ensemble. Regardez, le monde entier est une grande communauté. Le monde entier est une grande communauté. Et puis ensuite, ben, il y a des gens qui créent des mini-communautés, ça devient des pays, puis encore plus mini, ça devient des départements, puis encore plus mini, ça devient des communes, puis encore plus mini, ça devient le club de gymnastique, ou le club de fanfare, ou le club de que sais-je. Et puis, il y a aussi l'église de Jésus-Christ. Le monde entier est une communauté, seulement c'est le monde. Alors je sais que ça fait sourire beaucoup de gens quand on dit les gens du monde, mais c'est quand même quelque chose de réel. Il y a les gens du monde, puis il y a nous. Les gens du monde, ils ont leurs règles, et dans le monde de Jésus, ben il y a d'autres règles. Bon, il faut dire aussi que c'est vrai que beaucoup des règles qui gèrent le monde, nous les ont piquées, hein, faut avouer. Beaucoup de règles qui sont dans le monde, c'est des règles qu'ils nous ont piquées à nous, parce qu'à la base, c'est Dieu qui les a données. Mais en vérité, les règles, ces règles que Dieu a données à l'humanité sont des règles universelles. Il n'y a pas besoin de religion pour savoir que, voilà, qu'est-ce que je pourrais dire? Ben, c'est pas bien de mentir, c'est pas bien de tuer, c'est pas bien de voler, etc., etc. Il y a des règles universelles qui font que si elles sont respectées, eh bien, on peut vivre bien, tranquille. Et pourquoi est-ce qu'il est dit à qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble? Ben, c'est à condition qu'on mette les piles, c'est-à-dire qu'on mette les règles. S'il n'y a pas les règles, ben ça va pas. C'est la catastrophe, tout le monde est embêté, et il suffit d'un grain de sable pour que tout soit rayé, tout soit abîmé, que ça nous prenne la tête, qu'on soit embêté et tout. Donc, il faut les piles, hein, vous rappellerez les piles, les règles, pour que ça marche. Alors, c'est vrai que les gens du monde transgressent souvent leurs lois. Ils disent même les lois sont faites pour être transgressées. Bon. Et quand les transgresseurs sont pris en flagrant délit, quand ils sont pris, ils doivent payer. Ils doivent payer. Alors, ça peut aller de la simple amende à la prison, et dans certains pays, ben, ça va jusqu'à la peine de mort. Dans le monde de Jésus, dans la communauté mise à part, sanctifiée par Jésus, les transgressions de loi, s'ils se font prendre, humainement parlant, on va dire que Dieu voit tout, mais les frères et sœurs pas forcément, ben aussi ils doivent payer. Parce qu'il y a des règles. Parce qu'une loi, si on peut la transgresser sans qu'il y ait une punition, ben c'est pas une loi, c'est une blague. C'est une rigolade. Une blague, écoutez une blague, par exemple. On rappelle, c'est quelqu'un qu'on connaît tous très bien, à peu près tous très bien ici, qui avait raconté cette blague. C'est un homme qui rentre chez lui, un soir, il dit à sa femme, « Bonsoir chérie !» en posant son chapeau, son manteau. « Ah, aujourd'hui, je vais te dire, je t'ai trompé avec ma secrétaire. » Comment elle va réagir, la bonne femme? Elle va pas trouver ça banal, qu'est-ce que vous en pensez? Ben non, elle va être choquée, elle va être triste, elle va peut-être se mettre à crier. Puis au bout d'un moment, elle va se fermer, elle va faire de la tronche. Supposons, je continue la blague. À ce moment-là, le mari dit, « Mais chérie, je t'ai avoué ma faute. Oh, tu dois me pardonner. » Est-ce que ça marche comme ça? Ben non, ça marche pas comme ça. Qu'est-ce qu'elle va dire, l'épouse? Elle a plein de choses à dire, mais pour elle, elle peut pas dire, par exemple, « Ah, mais oui !» Mais bête que je suis. Mais c'est vrai. Jésus a dit qu'il faut pardonner. Oh, j'avais complètement oublié. Bon, je te pardonne. Tiens, pour fêter ça, c'est sous un petit resto. Est-ce que ça existe, ça, dans la vraie vie? Non. Je pense pas que ça soit aussi facile que ça. Continuons notre petite histoire. Le mari, voyant donc que son épouse est triste, qu'elle fait la tête, il pourrait dire, mais, « Chérie, mais tu ne me pardonnes pas. Pourtant, tu dois être soumise.
La Bible dit que tu dois être soumise à ton mari. Alors, moi, je te dis que la parole de Dieu dit que tu dois me pardonner, donc tu me pardonnes, sinon tu pèches. Est-ce que ça marche comme ça? Sur la parole de Dieu, je t'ordonne au nom de Jésus de me pardonner et de cesser immédiatement de faire la tête. Est-ce que ça marche comme ça? Non. Parce qu'il y a des règles. Et ces règles, elles correspondent avec notre façon de fonctionner, avec notre mode de fonctionnement émotionnel, entre autres. Elles sont le mode d'emploi de notre petite personne qui a été créée, qui a été ainsi fabriquée. C'est pas pour nous embêter, c'est pour nous permettre de vivre bien. Nous avons été fabriqués pour fonctionner selon les règles du fabricant. Amen. Alors, il y a des règles qui gèrent le pardon aussi. Alors, c'est vrai qu'on doit pardonner. Alors, c'est bien. Pouf, je pardonne. Ça, c'est, mais il n'y a rien de plus facile. Mais, dans cette règle-là, la personne qui nous a offensés doit tout, absolument tout faire, même plus que tout, pour regagner la confiance de celui ou celle ou de ceux qu'elle a offensés. Et suivant la faute commise, ben, ça peut prendre du temps. Faut pas nous demander de faire la, d'être grand, d'avoir des grands sourires tout de suite, puis de dire, ah, ben, tiens, oui, alors je te pardonne, puis vous fêtez ça en bon resto. Non. Non. Ça peut parfois prendre beaucoup de temps. Ce sont les règles qui sont comme ça. Parce que les blessures infligées par les transgresseurs sont des blessures physiques, parfois, psychiques, souvent, morales, spirituelles, des fois même financières. Et ces blessures, elles ne se cicatrisent pas en 2 secondes. Ça n'est pas vrai. Ça n'est pas vrai. Et c'est très bien que ça soit comme ça. Parce que ça, parce que à cause de ça, à cause du fait que c'est fait comme ça, ça oblige ceux qui sont tentés de transgresser les règles, ça les oblige à réfléchir aux conséquences spirituelles, psychologiques, morales et même financières des transgressions qu'ils seraient tentés de faire. Ils seraient tentés de tomber, de succomber à ces tentations, mais juste avant, ils réfléchissent, oh, ah, attends. Est-ce que vous vous rappelez la prédication que j'avais fait chez, comment il s'appelle? À Montrouge, il n'y a pas de repas gratuit. Vous vous rappelez de ça? Tout est payant. Il n'y a pas de repas gratuit. Même notre salut, il n'est pas gratuit. Ça a coûté à Jésus. Ça lui a coûté très cher. Tout coûte quelque chose. Et si une personne transgresse sans que humainement ça soit découvert, ben, sa conscience va le reprendre. Ça, il va pas se sentir bien. Ça, c'est sûr. Et puis, de toute façon, il faudra un jour répondre devant Dieu au tribunal final. Et ça dissuade beaucoup de gens. Heureusement. Heureusement. Mais c'est quand même dommage. Ah. C'est quand même dommage, comme dirait l'autre, qu'il faille en arriver là. La peur du gendarme. La peur du retrait de permis. La peur du jugement de Dieu. La peur. La peur de l'enfer. Vaudrait-il pas mieux vivre avec l'amour? On obéit aux règles par amour, par respect de la superbe machine que nous sommes. On va y mettre des piles. On va mettre de l'huile pour que ça fonctionne bien. L'huile, c'est le Saint-Esprit. Hein, vous m'avez suivi, les religieux. Il faut mettre tout ce qu'il faut pour que la machine fonctionne bien. Sinon, ça fonctionne pas bien. Et on le fait par amour, par respect pour cette machine que nous sommes. Si vous dormez 2 heures par nuit, vous êtes en train de blasphémer, vous vous moquez de la belle machine que Dieu a créée. Un jour, à force de tirer sur la corde, elle va péter. C'est comme ça. Il faut donner à la machine le repos qu'il faut. Il faut donner à la machine la nourriture qu'il faut. Il faut lui donner du plaisir aussi. Il faut lui donner, elle a toute chose, d'une bonne fatigue aussi, une vraie bonne fatigue. Il faut lui donner tout ça à cette machine pour, par respect, par amour pour sa propre personne, par amour pour les autres, par respect pour les autres, par amour pour la nature que Dieu a créée. C'est dommage que on fasse les choses parce qu'on a peur du jugement. C'est pas bon. On doit les faire par amour. Le contraire de l'amour, c'est de jouer avec ce que Dieu a créé en méprisant les règles du jeu et donc en cassant tout, en se permettant de faire n'importe quoi, en brisant les lois. Quand on brise la loi de la gravité dont nous parlait, je ne sais plus si c'est Benjamin ou Nathanaël l'autre jour, si on brise la loi de la gravité, c'est grave. On va avoir des problèmes si on n'en tient pas compte. C'est pareil pour tout. Il y a des règles et c'est bien ainsi. C'est très bien ainsi. C'est pourquoi il est aussi dit, l'Éternel est mon berger. Ah, ton bâton me rassure. Pourquoi un bâton? C'est fait pour quoi un bâton? Pour faire joli sur les tableaux? Non, un bâton, c'est pour vous frapper. Je suis bien content que tu as un bâton pour me frapper de temps en temps derrière les oreilles pour que je me souvienne qu'il vaut mieux que je marche correct parce que sinon je vais me prendre un coup de bâton. Ça me rassure que tu m'aimes quand tu me frappes, ça veut dire que je suis pas un bâtard. Parce que dans le vrai terme, c'est pas les enfants illégitimes, c'est les bâtards, c'est écrit. Hein. Dieu châtie ceux qu'il aime, les siens, mais les bâtards, bon, il les laisse. C'est écrit. Hein. Il y a des règles, c'est bien ainsi. Et vous savez pourquoi c'est bien ainsi? Parce que on n'est pas seul au monde. Vous n'êtes pas seul au monde. Si vous étiez seul au monde, waouh! Ben, tout ce que vous faites, ça servira à rien du tout. Ça serait inutile. Ça serait nuisible à personne, c'est vrai, mais ça serait utile à personne non plus. Il y aurait personne. Alors eux, là, ils persévéraient dans la communion fraternelle. Dans la communauté, dans le monde de Jésus, ce sont vos interactions et les expériences avec les autres qui apportent de la joie dans votre vie, ou le désordre. C'est vos interactions. Ce sont vos interactions et vos expériences qui donnent un sens à votre vie et un but aussi. Voilà le sens que Jésus vous propose. Si vous faites des actions qui sont celles qui ne sont pas selon les règles, ben vous allez vous diriger dans un autre sens. Ça va faire de la peine à tout le monde un certain temps, puis après on s'y fait. Mais vous allez toujours dans le mauvais sens. C'est une bêtise, mais c'est une bêtise. Les vrais disciples sont un seul cœur, une seule âme, nous dit la Bible. Et nous persévérons dans la communion fraternelle, nos relations les uns avec les autres, elles influencent toutes nos vies. Et il faut, parce que c'est une loi, que vous fassiez tout et même plus pour les autres, de façon à ce qu'ils aient de la gratitude envers vous. Je vous ai parlé de la gratitude vendredi. Je vous dis que si vous ne faites pas tout pour que les autres aient de la gratitude envers vous, que quand ils vous voient, ils aient envie de dire « Ah, merci au fait pour eux. Ah, merci l'autre jour, tu... » Hein? Vous devez faire tout. Si vous ne posez pas des actes devant lesquels les autres, vos frères et sœurs, ne peuvent pas dire merci avec un sentiment de gratitude réel, eh bien, la relation avec les frères et sœurs va se détériorer. C'est la loi, on n'y peut rien, on était fabriqué comme ça. Et c'est bien qu'on soit fabriqué comme ça. Parce que si on n'avait pas été fabriqué comme ça, on aurait été fabriqué autrement. Mais comme on n'a pas été fabriqué autrement, faisons avec ce qu'on a. On a les règles, on les connaît, elles sont là. Incontestables. Amen. Alors, si vos actes ne remplissent pas votre mari, votre femme, de gratitude sincère, ça peut se solder par un divorce. Un divorce. Dans la communauté, il n'y a pas la peine de mort, mais il y a l'exclusion. Ça existe. C'est à force de toujours, 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 et encore, et encore, et encore, et encore. Mais il y en a marre au bout d'un moment. On dit, il y en a marre. Ils ne nous aiment pas. Ils ne nous respectent pas. Qu'il aille ailleurs. Voilà. C'est la règle. On n'y peut rien. C'est Dieu qui l'a inventé pour notre bien. pour le bien de ceux qui les observent. La gratitude, elle fait grandir les relations, mes frères et sœurs. Ils persévéraient dans la communion fraternelle. Pourquoi ? Parce qu'ils étaient conscients du trésor qu'ils possédaient. Ils étaient conscients. Ils en rendaient compte. Compte. Ils faisaient les comptes. Ils comptaient les bienfaits de Dieu. Ils s'en rendaient compte. Dans le monde de Jésus, nous nous efforçons de vivre par le même esprit, par celui de Jésus. Nous essayons d'avoir les mêmes pensées. Nous parlons le même langage. Nous nous y efforçons afin que tout soit le plus simple possible, tout soit le plus facilement compréhensible et faisable possible. Alors que dans le monde, ils vivent conduits par un autre esprit, et c'est pour cela que le monde va à sa perte. Et c'est pourquoi on est sorti de ce monde. Et pourquoi on est sorti? Et c'est pourquoi nous allons au salut éternel. C'est ça le salut. C'est une question d'esprit, de conscience. Alors, de quel esprit êtes-vous animé? Nous avons été créés pour vivre ensemble, conduits par un bon berger, notre créateur, créateur de la machine merveilleuse que chacun d'entre nous nous sommes, avec le mode d'emploi, avec aussi tout ce qu'il faut pour guérir quand il y a quelque chose qui marche pas. Le royaume de l'ennemi, lui, il est divisé. Les démons, ils sont pas soumis à Satan. Et s'ils sont soumis, c'est simplement parce qu'ils ont peur de Satan. Mais ils sont pas soumis par amour, ça, vous pouvez être certain. Hein? Dans l'Église rétablie de Jésus-Christ, nous obéissons par amour pour Jésus, le Maître, notre Créateur, l'inventeur des lois parfaites qui nous font fonctionner parfaitement. Par amour pour notre famille, par amour pour notre communauté, par amour pour notre pays. Et si vous pensez que ça fait trop ricain, eh ben bon, je suis un loser et puis vous avez raison, c'est bien. L'obéissance, elle va du bas en haut, on obéit à celui qui est en haut. C'est comme ça. Et si tu es fidèle dans les petites choses, Dieu t'en donnera de plus grandes de façon à ce qu'un jour, toi aussi, tu sois en haut. La soumission de cœur, c'est de l'intelligence, mes frères et sœurs. Si la soumission n'est pas celle du cœur, ça peut pas marcher. Ça marche un moment, mais ça s'enraye. Ça marche pas longtemps. Tout doit venir du cœur. Et ce matin, je voudrais que vous fassiez un geste de foi. Vous rappelez que Moïse, il avait un bâton avec lequel il a ouvert la mer. Et puis ce bâton, ensuite, quand il est quelques années après, les Juifs en ont fait une idole. Ça, c'est Akhtu, c'est pas bien, c'est pas glop. Il faut pas faire une idole avec les objets. Donc on est au clair. Aaron, lui, il a placé des cailloux dans le Jourdain en souvenir de leur entrée dans le pays de la promesse. C'était pas pour aller se prosterner devant les cailloux, prier les cailloux, ou que sais-je. Ce matin, à partir de là, à partir de maintenant, désormais, avec vous, vous allez avoir un signe palpable de votre engagement personnel avec Jésus, engagement de persévérer avec Jésus, avec amour. Un signe palpable, comme le bâton de Moïse, comme les cailloux fondus du torrent, enfin, quelque chose de palpable, pas simplement un souvenir du baptême que vous avez fait, et pas simplement la Sainte Cène qu'on prend une fois par mois chez nous, mais quelque chose d'encore plus précis, parce que le diable se déchaîne en ce moment, on a besoin d'avoir un contact de foi précis, permanent. Vous allez aller en sortant là, aujourd'hui ou demain, vous allez chercher un caillou, un petit caillou, un caillou qu'il faudra que vous puissiez mettre dans votre poche, comme celui-là. Celui-là, je l'ai ramassé aux mines de Salomon. Un petit caillou que vous puissiez tenir dans votre main en la fermant, qui disparaisse complètement dans votre main. Chaque soir, vous allez poser ce petit caillou sur votre table de nuit, là où vous pouvez le voir juste au moment où vous éteignez la lumière. Avant de vous coucher, vous allez prendre ce petit caillou dans votre main et vous allez refermer votre main dessus et vous allez remercier Dieu pour le fait d'être encore vivant sur la terre. Et puis ensuite, vous bénirez tous ceux que vous aimez premièrement, et puis les autres après aussi. Hein. D'abord, bénissez ceux qui vous aiment, ceux que vous aimez, les autres en deuxième. Hein. Même pas charrier non plus. Hein. Voilà, il y a aussi des règles là. Et puis ensuite, dites merci merci pour tout. Et puis, vous posez le petit caillou sur votre table de nuit et vous éteignez la lumière. Le matin, vous reprenez votre petit caillou avec vous, dans votre poche, dans votre sac. Moi, je le mets dans la poche. Et chaque fois que vous verrez le petit caillou ou que vous mettrez votre main dans la poche ou dans votre sac et que vous toucherez le petit caillou, ce caillou sera pour vous un point de contact de foi pour vous souvenir que vous êtes aimé. Que vous êtes aimé de Dieu, que vous êtes aimé de votre famille, que vous êtes aimé de votre pasteur, que vous êtes aimé de votre communauté. Est-ce que vous allez le faire? Qui va le faire? Ouvrez vos Bibles, Nombre 15, 37, 41. Nombre 15, 37, 41. L'Éternel dit à Moïse, parle aux enfants d'Israël et dis-leur qu'ils se fassent de génération en génération une frange au bord de leurs vêtements et qu'ils mettent un cordon bleu sur cette frange du bord de leurs vêtements. Quand vous aurez cette frange, vous la regarderez et vous vous souviendrez de tous les commandements de l'Éternel pour les mettre en pratique. Et vous ne suivrez pas les désirs de vos cœurs et de vos yeux pour vous laisser entraîner à l'infidélité. Vous vous souviendrez ainsi de mes commandements, vous les mettrez en pratique et vous serez saints pour votre Dieu. Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous ai fait sortir du pays d'Égypte pour être votre Dieu. Je suis l'Éternel, votre Dieu. C'était une parole de Dieu pour les enfants d'Israël. Hein, dit. Parle aux enfants d'Israël et dis-leur. Donc, c'est pour les enfants d'Israël. Aujourd'hui, vous, Église de Jésus-Christ, rétablie, ce caillou aura pour vous la même signification. Ainsi dit l'Éternel. Parle aux enfants de l'Église de Jésus-Christ rétablie et dis-leur qu'ils aient de génération en génération un caillou dans leur poche. Quand vous verrez ce caillou, quand vous toucherez ce caillou, quand vous le regarderez, vous vous souviendrez de tous les commandements de l'Éternel pour les mettre en pratique et vous ne suivrez pas les désirs de vos cœurs et de vos yeux pour vous laisser entraîner à l'infidélité. Vous vous souviendrez ainsi de mes commandements, vous les mettrez en pratique et vous serez saints pour votre Dieu. Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous a fait sortir du pays d'Égypte, non pas du pays d'Égypte, mais de l'esclavage du péché, pour être votre Dieu. Je suis l'Éternel, votre Dieu. C'est une parole pour les enfants de Dieu aujourd'hui. Ce caillou, c'est le symbole de la révélation qui est un rocher. C'est un mini rocher que vous avez dans votre poche, à portée de main. Alors soyez sérieux, parce que Jésus revient. Amen. Seigneur Jésus, je te prie, afin que mes frères et sœurs se choisissent un petit caillou, et plus que ça, qu'ils choisissent de se souvenir de tes commandements, afin de ne pas aller après les désirs de leur cœur et de leurs yeux, mais qu'ils aillent après tes commandements pour les mettre en pratique. Je te le demande, Seigneur Jésus, afin que ta gloire puisse resplendir sur leur vie. Merci, mon Dieu. Amen.